partie de la matinée. Et je donne donc tout de suite la parole à M. Henri Quéré pour son exposé sur texte et illustration des sémiotiques syncrétiques au protocole d'enregistrement.
Merci beaucoup. Permettez-moi de dire pour commencer à quel point je me sens honoré d'être ici parmi vous, d'autant plus que je me vois comme un non-spécialiste notoire et de Zola et de la Genèse et de l'iconographie en général. Alors évidemment, légitimement, on peut se demander ce que je fais ici. Je me propose, modestement j'espère, de proposer un éclairage sémiotique. Quand je dis sémiotique, je pense à la sémiotique grémacienne et à cette école enfin, dont je fais partie. Et donc un éclairage sémiotique des rapports du texte et de l'illustration dans le roman de Zola. Quand je dis sémiotique, je pense aussi plutôt à l'esprit qui guide la sémiotique, c'est-à-dire un certain nombre de conceptions d'ensemble, beaucoup plus qu'à la technicité de détail qui peut avoir un effet dissuasif ou même repoussant, que je ne pourrais pas tout à fait éviter, et je vous prie de l'excuser par avance. Alors, pour ce qui concerne mon titre, des sémiotiques syncrétiques au protocole d'enregistrement, je crois que bon, il est suffisamment clair à ceci près que par sémiotique syncrétique, j'entends, je crois canoniquement, ces sémiotiques qui, pour une signification globale, associent et combinent des différentes formes de l'expression empruntées elles-mêmes à des substances diverses. Et par protocole d'enregistrement, j'entends notamment l'entreprise, enfin, dont j'ai connaissance, dans le cadre du centre d'études sur Zola et le naturalisme, l'entreprise consistant à dresser une sorte de fichier systématique, informatisé, cette iconothèque aussi dont on a parlé précédemment. Alors, je crois que mon titre serait plus adéquat s'il était « Des protocoles d'enregistrement aux sémiotiques syncrétiques et aux protocoles d'enregistrement » pour bien montrer que la réflexion théorique sur les sémiotiques syncrétiques est encadrée, je dirais heureusement contrôlée par la pratique. Quand on s'interroge ainsi sur la constitution d'un fichier de cette sorte, naturellement, les questions premières, les trois questions premières, sont quel type d'information enregistrée, sous quelle forme et à quelle fin. Ces trois questions étant étroitement interdépendantes, puisqu'il est bien clair que c'est l'usage, c'est-à-dire les finalités qu'on assigne à l'ensemble, qui déterminent, qui conditionnent l'interprétation, laquelle conditionne le traitement des données, lequel, à son tour, va conditionner le stockage des informations. Or, de ce point de vue, on peut noter déjà que l'apparition de nouvelles technologies, comme on dit, à savoir par exemple le vidéodisque ou l'image numérisée, que cette apparition ne fait que reculer la question de l'information que l'on va devoir enregistrer. Alors, une autre façon de formuler la question de départ serait de dire, peut-on passer d'un fichier informatisé à quelque chose qui soit plutôt ou davantage un catalogue raisonné des images, c'est-à-dire qui ne comporte pas simplement des informations relativement brutes, des données relativement factuelles, comme disons une notice bibliographique ou un catalogue d'exposition, mais qui aille plus loin. Et s'il est possible d'aller plus loin, dans quelles conditions? Alors, c'est là-dessus que, de manière peut-être un petit peu abstraite, un petit peu austère, surtout après avoir eu des projections d'illustrations et aussi avoir bénéficié ici ou là d'une pointe d'humour de la part de mon prédécesseur. Donc, cette austérité, je vous demande de me la pardonner, mais je vais essayer de prendre un point de vue relativement abstrait et théorique. Alors, s'agissant de l'enregistrement, des protocoles, à terme bien sûr, d'enregistrement, la première chose qu'on constate, c'est évidemment que, comme on sait, la description de l'objet, même à une seule image, est proprement interminable. On peut toujours descendre dans le détail des traits, etc. que, par conséquent, cette procédure, ce travail, est un travail forcément orienté. Et que, étant forcément orienté, comme il apparaît déjà dans le simple inventaire du contenu, ou l'attribution à tel ou tel genre, ou sous-genre, ou encore dans la désignation synthétique de ce qu'on appelle communément le sujet d'une image, alors cette orientation a pour corollaire une théorie qui est au moins implicite et qui transparaît jusque dans les appellations retenues sur les fiches qu'on peut constituer. Faut-il alors franchir le pas et passer à une théorie explicite, sachant que ceci n'est pas non plus innocent, implique un choix, le choix par exemple d'une théorie ou d'un modèle de description par opposition à d'autres, ce choix qui a ce désavantage d'être lui-même orienté a peut-être par ailleurs, c'est ce que j'espère en l'occurrence, l'avantage de proposer une conceptualité qui peut aider, ne va pas tout résoudre, mais qui peut aider au travail de catégorisation qu'imposent les protocoles d'enregistrement. L'idéal, évidemment, c'est de trouver, et aussi la solution prudente, une sorte de bonne mesure, de bonne distance entre une sorte de pratique irréfléchie et une abstraction, une théorisation paralysante. Donc, de savoir faire preuve, chercher à faire preuve, une sorte d'empirisme bien tempéré. J'en viens maintenant, j'ouvre le chapitre, si je puis dire, essentiel pour moi, de ce que j'appellerais, si vous voulez bien, les conditions de la saisie. Et j'emploie ce terme de saisie à dessein pour désigner d'un même mot, c'est là son avantage, l'établissement sémiotique de la signification et le traitement informatique des données. Parlons d'abord, si vous voulez bien, et rapidement, de l'édition illustrée comme telle. Peut-on dire que l'édition illustrée a un propre quelconque, ou doit-on admettre que le propre de l'édition illustrée, ce serait plutôt de n'en point avoir ? Que l'édition illustrée se situerait quelque part, comme on dit souvent maintenant, quelque part entre le tout texte et le tout image, sachant que ni le tout texte ni le tout image n'existent effectivement, que ce sont là des espèces pures de la théorie. Donc je n'insisterai pas sur ce point. Ce sur quoi j'aimerais insister, c'est l'appartenance de l'édition illustrée, de façon intéressante et fascinante même, à ce qu'on peut appeler les espèces graduelles, un peu comparable au spectre des couleurs, c'est-à-dire où les espèces, tout en se distinguant, ont également et autant tendance à se fondre. Alors, dans ces espèces graduelles, de nos jours, par exemple, avec l'apparition de ces nouveaux, à la fois de ces nouvelles techniques et de ces genres inédits, on pourrait dire que l'édition illustrée côtoie en se fondant d'ailleurs avec eux plus ou moins la bande dessinée et le roman photo, pourquoi pas, peut-être d'autres choses encore. Mais cette gradualité dont je parle, elle se manifeste non seulement entre les espèces, mais aussi bien entendu à l'intérieur de chacune des espèces. C'est ce qui fait que on a affaire, dans le cas par exemple de l'édition illustrée, à toutes sortes de dosages, à la fois quantitatifs, évidents, et qualitatifs, dosages qualitatifs qui se définissent en termes de rapport de secondarité, qui ou quoi a la prééminence, enfin, du texte et de l'image, selon le cas, en termes donc de secondarité, et aussi en termes de solidarité, c'est-à-dire la liaison entre texte et illustration est évidemment plus ou moins forte. Alors, cette réflexion sur la gradualité, sur les espèces graduelles, a par ailleurs un grand intérêt, enfin pour intérêt en tout cas, je crois, de s'inscrire dans une réflexion plus générale que peut-être on doit garder en arrière-fond de la réflexion, qui est celle sur les morphologies dynamiques, les morphologies en devenir, où se posent toutes les questions de la définition des contours et des frontières, celle des franchissements de seuil, celle des bifurcations et autres catastrophes. À tout cela, j'ajouterai que l'édition illustrée, pour la spécifier davantage, représente une configuration singulière et peut-être un cas à part en raison de la séparabilité qui la caractérise. C'est-à-dire que, à la fois de droit et de fait, l'illustration peut se détacher du texte. Bon, empiriquement, évidemment, cela est démontré par le fait que le texte existe seul et qu'on peut présumer qu'il se suffit à lui-même. Mais cela s'opère aussi, par exemple, j'ai envie de dire, délibérément, par prélèvement, lorsque c'est la pratique, par exemple, du collectionneur ou du bibliophile qui prélève selon ses propres critères esthétiques. Et il peut y avoir aussi une séparabilité de droit, je dirais, même de principe, qu'on peut théoriser, et qui consiste en un découplage des deux formes de manifestation, le texte et l'illustration, en une autonomisation, par exemple des illustrations, et là, j'ai envie de dire, deux cas se présentent. Ou bien la suite des illustrations est traitée comme un ensemble continu, lisible comme tel. Le cas, après tout, peut-être même si les limites pourraient se produire. On lirait l'assommoir à travers les illustrations. Ou bien le mode de traitement retient l'aspect syncopé, intermittent des illustrations, auquel cas on peut se retrouver dans un cas très voisin du cas précédent, ou même tout à fait identique, au nom et en vertu d'une représentativité lacunaire qui est très exactement celle du fragment. Autrement dit, une réflexion sur l'illustration implique, nécessite peut-être même, une réflexion sur ce qu'on pourrait appeler une sémiotique et sans doute aussi une esthétique du fragment. Au passage, si on pense par exemple à certains travaux de Jacobson, à certaines des idées émises sur les débats, on pourrait dire, du son et du sens, et notamment sur la rime, des choses qu'il a pu dire sur la rime comme « au lieu » et comme « temps fort » du sens, dans le langage poétique, se retrouverait transposé dans le domaine de l'illustration, l'illustration apparaissant comme une sorte de foyer, un point de condensation, ce qui, à son tour, entraîne une réflexion sur les phénomènes tension et de scansion, c'est-à-dire sur une réflexion sur les rythmes sémantiques. Tout ce que je viens de dire, au fond, tend à montrer, enfin, ou à rappeler plutôt, l'illustration a un statut largement incertain, au moins tant qu'on l'apprend comme ça, en général, et j'allais dire dans l'abstrait. On ne sait trop si elle est nécessaire, facultative, gratuite, peut-être même surajoutée. Et je dirais que les choses s'aggravent dès qu'on passe du niveau des types au niveau des occurrences. Si on prend un exemple donné, moi je regardais un petit peu l'assommoir. C'est le seul, d'ailleurs, ça limite évidemment la portée de mes réflexions. Ça les limite et peut-être ça l'étend, parce que une certaine prise de distance peut-être permet de généraliser au moins en partie certaines des choses qui peuvent être dites. Donc le seul exemple de l'assommoir, comme il a été dit juste avant moi, montre. C'est, pour ainsi dire, la première impression, quantité de disparités, sur lesquelles je ne vais pas revenir. Enfin, on pourrait énumérer un certain nombre de détails, on en a eu déjà quelques-uns, donc ça suffira pour l'exemple, je dirais. Alors, ces disparités sont dues, en partie, bien sûr, à l'interférence entre différents systèmes modelants, c'est-à-dire qu'il y a, bien sûr, le souci d'illustrer le texte, et on pourrait presque dire idéalement, et encore, ce n'est pas certain, sous la forme du vis-à-vis, c'est-à-dire l'image faisant face au texte et le texte à l'image, le généraliser serait ignorer le fait que si par exemple il y a décalage, ça peut faire partie d'une sorte de stratégie visant l'énonciataire et ses réactions, par conséquent, ce modèle du vis-à-vis n'est pas du tout, n'a pas du tout, a priori, à constituer la règle. Donc, en tout cas, on a indiscutablement cette interférence entre des systèmes modelants, donc aussi les contraintes de fabrication, les nécessités de la publication, du découpage, enfin, quantité de choses de ce genre. À côté de cet aspect quelque peu erratique, je dirais, il y a bien sûr toute une série de constantes qu'on peut également repérer, mais des constantes dont j'ai envie de dire qu'elles sont problématiques elles-mêmes. Par exemple, le fait que le plus souvent, je parle de l'Assommoir, d'une seule édition, qui plus est, l'édition Né Variéture, donc j'ai fait exprès de réduire mon corpus, il faut adapter, et on a eu l'avantage de bénéficier à l'instant d'éléments comparatifs. Donc ces constantes sont problématiques, et par exemple, le fait que le plus souvent, les illustrations, dans l'édition à laquelle je pense, précèdent leur corrélat textuel, cette règle, si vous voulez, pour ainsi dire, avec quelques exceptions, est intéressante parce que on peut dire que de ce point de vue, s'en tenir, si vous voulez, à l'image telle qu'elle et dire qu'elle précède le moment du texte, pour autant d'ailleurs qu'il soit indiqué précisément, ce qui n'est pas toujours le cas, qui est même parfois loin d'être le cas. Donc, que ce rapport de l'image au texte, cet rapport d'anticipation, ne suffit pas, enfin n'est pas assez clair, parce qu'il apparaît rapidement que certaines des illustrations, le contenu figuratif des illustrations, est tel qu'on peut en parler en termes d'aspect et d'aspectualité, et distinguer ainsi des illustrations dont l'aspect serait ponctuel, c'est-à-dire se référant, y compris nommément, à tel passage précis du texte, alors que d'autres, d'un point de vue aspectuel, ont un aspect, donc non plus ponctuel, mais étendu, non plus intense, pourrait-on dire, mais extense, c'est-à-dire trouve à s'appliquer, vaudrait pour, j'ai envie de dire, l'ensemble du texte. Au vu de ces disparités, de ces variations plus ou moins difficiles à identifier et à caractériser, la question suivante est évidemment de s'interroger sur la raison, au fond, du point de vue des sémiotiques syncrétiques, qui fait que tout cela, pourrait-on dire, rime ensemble. Alors je crois qu'on peut commencer par un pari, une sorte de pari obligé, qui est aussi une option méthodologique, et qui consiste à traiter l'ensemble texte-illustration dans un roman donné, par exemple, comme un objet déjà constitué, comme un ensemble qu'on présume intégré, la question devenant alors évidemment celle de la présence simultanée, ou mieux encore, celle de l'action conjointe des deux modes de manifestation, et ceci au moins dans un temps, dans un premier temps, indépendamment, dans mon cas c'est également une solution obligée, ceci donc sans tenir compte au moins pour l'instant de l'histoire ou des accidents de la Genèse, et bien entendu l'option qui est prise ainsi se veut accueillante, c'est-à-dire il s'agit d'être prêt à recevoir par exemple toutes les informations dues aux gens qui ont, ce qui n'est pas mon cas, encore une fois, l'érudition nécessaire. Alors, les conséquences à tirer de cette option de départ sont au nombre de trois, si on les résume. Elles sont, je dirais, premièrement, l'adoption de ce qu'on appelle le point de vue immanent ou encore structural, par opposition, par exemple, je ne m'attarde pas là-dessus, à ce que, il y a déjà pas mal de temps, quelqu'un comme René Thom appelait les modes d'approche réductionnistes, soit externes, soit internes. Donc, le point de vue structural privilégie de façon immanente les corrélations. La deuxième conséquence, c'est la postulation d'une instance d'énonciation unifiée et englobante, avec d'un côté un énonciateur transcendant sujet et du texte et de l'image, et corrélativement, de l'autre côté, un destinataire sujet de la co, ou même, peut-on dire, de la ré-énonciation de l'ensemble. La troisième conséquence, c'est la neutralisation des différences, neutralisation qui peut être provisoire ou suspensive, ce qui signifie concrètement que les variantes individuelles qu'on peut noter, par exemple le fait que les gravures sont loin de là, loin de là de la même main, donc ces variantes individuelles peuvent être, pour ainsi dire, suspendues, traitées peut-être comme de simples variations stylistiques, avec toutefois cette réserve qu'on peut avoir à les raviver au lieu de les neutraliser et à les traiter comme les figures d'une rhétorique. Donc c'est donc dans ce cadre à partir de ces trois propositions et sur ces bases qu'on peut procéder, je crois, à une évaluation des illustrations. Et je dis évaluation car il s'agit bien de leur valeur en représentation et en discours, c'est-à-dire dans le contexte où effectivement elles apparaissent et où elles opèrent. Cette évaluation, à son tour, implique une réflexion générale, relativement générale, sur au moins, je dirais, quatre plans ou dans quatre domaines qui me paraissent essentiels. Premièrement, sur les phénomènes de syncrétisme. Deuxièmement, sur la figurativité en général. Troisièmement, sur le déploiement syntagmatique de la signification. Quatrièmement, sur l'activité de lecture ou même, plus généralement, l'esthétique de la réception. Il s'agit là, quand j'énumère ces quatre domaines, d'attendus, je le reconnais, particulièrement massifs et qui peuvent avoir un effet d'interdit. Et il faut, je rappelle ce que je disais au début sur le pragmatisme bien tempéré, il faut se garder évidemment de transformer la théorie en une structure d'interdit il faut aussi se garder, on le sait, de vouloir tout connaître avant de commencer. Parlons, si vous voulez, des syncrétismes. Je dis des syncrétismes parce qu'il y a plusieurs manières de voir donc cette façon dont texte et illustration, en l'occurrence, marchent et fonctionnent ensemble. La première chose à dire à propos de ces syncrétismes, c'est qu'ils constituent, et depuis longtemps, un objet de débat. C'est un peu comme si, dans un débat un peu swiftien, si vous voulez, il y avait d'un côté les tenants de la substituabilité, j'ai envie de dire pure et simple, c'est-à-dire la postulation d'une équivalence de principe entre texte et illustration. À l'autre bout de l'éventail ou du spectre, il y a les tenants de la spécificité irréductible. Je dis que le débat ne date pas d'hier, bon, mais d'abord, il date par exemple déjà, enfin il datait d'avant, on le retrouve par exemple chez quelqu'un comme Walter Pater, enfin bon, esthéticien, pas, entre autres choses, et où il récuse cette idée, justement, il dit quelque part, enfin dans un ouvrage qui s'appelle The Renaissance, il dit quelque part qu'il s'agit de récuser cette attitude critique qui consiste par exemple à traiter la musique, la peinture, la poésie comme des simples traductions dans des langages différents de, dit-il, la même, une seule et même quantité fixe, stable, de pensée imaginative, ce qui traduit d'ailleurs mal l'anglais, imaginative thought. Sachant que le débat existe, on peut quand même chercher, à l'intérieur de ce spectre, de cet éventail, chercher à identifier différents cas de figure possibles s'agissant de cette question des syncrétismes. J'en proposerai trois, si vous voulez, l'un relevant d'une sorte d'hypothèse moniste et les deux autres d'une hypothèse de type plutôt dualiste. Dans le premier cas, texte et illustration sont traités de telle manière que les illustrations sont considérées ou sont prises comme le plan de l'expression pour un plan du contenu qui n'est autre que le livre, que le texte lui-même. Cette hypothèse est en fait, cette façon de voir étant adoptée, on peut recourir à l'analogue théorique que fournit la réflexion précisément sur les rapports entre les plans de l'expression et du contenu, ou encore dans le jargon sémiotique et grémacien, sur les rapports entre les structures sémiques et les structures phémiques, ces dernières étant les structures du plan de l'expression. Dans cette optique, on est amené à distinguer deux séries de possibilités. La première, c'est tout ce qui a trait au phénomène d'isomorphisme. On songe bien entendu tout de suite à des travaux, des remarques de quelqu'un comme Jacobson et à son idée de l'intégrité du langage poétique. On peut songer aussi à un texte que je juge fort important de Grémas, qui s'appelle « Pour une théorie du discours poétique » et que l'on trouve dans les essais de sémiotique poétique publiés chez Larousse. Ces phénomènes d'isomorphisme peuvent être considérés de deux façons. De deux façons qui sont liées à l'aspectualité, aux catégories aspectuelles. La première façon, c'est de considérer ces phénomènes d'isomorphisme, j'allais dire, en continu. C'est-à-dire comme si, entre, par exemple, texte et illustration, on avait une conformité continue, une conformité d'ensemble. Ou bien, aspectuellement, là encore, on retient essentiellement l'aspect, le côté intermittent des phénomènes d'isomorphisme. Auquel cas, on n'a plus, comme l'a dit par exemple Jean-Claude Coquet, que des points d'équivalence. Et il le dit dans un article qui figure dans le même recueil. Ce qu'on peut ajouter dans les deux cas, c'est que, je crois, on a affaire... qu'il s'agisse donc d'envisager les choses en continuité ou de façon intermittente, on a affaire dans les deux cas au même rêve d'adéquation, ou même de fusion complète entre les deux plans. Ce rêve, rêve de poète d'une certaine manière, qui s'affirme à l'encontre de la fatalité, ce que je proposerais d'appeler la fatalité de la double instance. Toutes ces doubles instances dans lesquelles nous nous débattons, je ne sais pas, signifiant, signifié, symbolisant, symbolisé, contenu, expression, et ainsi de suite. L'autre manière d'envisager les choses, c'est de les traiter non plus en termes d'isomorphisme, comme je viens de le dire, mais en termes de relations semi-symboliques. C'est une notion qui a été introduite et développée, conceptualisée, en particulier par Jean-Marie Floch, dont il a été question tout à l'heure. Il s'agit alors d'établir des corrélations systématiques, c'est-à-dire en fait des relations entre les différents plans. Ceci permet de garder à chacun des plans sa spécificité, au lieu de chercher à réduire l'un à l'autre. Si on veut prendre, pour prendre un exemple rapide et approximatif, d'une certaine façon, je dirais que dans le cadre de ces relations semi-symboliques, et on voit l'application qui peut être faite à une gravure, par exemple, assez rapidement, on dira par exemple qu'à la catégorie, car ce sont des catégories, et donc des relations ici que l'on compare, qu'à la catégorie topologique O versus bas, par exemple, correspondrait, ou serait corrélable, si vous voulez, là, une catégorie sémantique du genre dominant-dominé, et peut-être même au-delà, une catégorie axiologique du genre supérieur-inférieur. Puis on entend par là une évaluation axiologique. Ceci, je crois, d'une certaine façon, pourrait s'appliquer aux illustrations qui, dans l'édition concernée, représentent les rapports, ces scènes cruciales entre Gervaise et Virginie. La première, la bataille du lavoir, ou si je puis dire, Gervaise a le dessus, dans le deuxième cas, Gervaise, lavant le sol de la boutique de confiserie, Gervaise a le dessous. Et il faut voir dans l'image comment ces catégories ici, qui sont à la fois sémantiques et axiologiques, se retrouvent traduites dans les catégories topologiques, si vous voulez, de l'image. Bon, à cette première façon, ça c'est l'hypothèse moniste, avec des variantes, vous voyez, à l'intérieur. Si je prends l'hypothèse dualiste, j'aimerais maintenant faire une nouvelle distinction, entre d'une part le discours double et d'autre part le double discours. Parler du discours double, c'est admettre qu'on a affaire à un discours, un seul et même discours, qui se monnaie, pour ainsi dire, en deux formes de manifestation, qui apparaissent d'ailleurs soit simultanément, soit alternativement. Ceci est à relier, dans la conception sémiotique, à l'idée même du parcours, cette simulation qu'est le parcours génératif, comme on dit, et aux opérations en particulier dites manifestation et sémiosis, c'est-à-dire le moment où la signification préétabli, et aussi non seulement préétabli, mais préformé syntaxiquement, va rencontrer, si je puis dire, le niveau des signes pour se manifester. Donc il y aurait là une sorte de possibilité d'option. Évidemment, dans l'autre cas, le double discours, on reconnaît l'autonomie respective de chacun des deux, de chacune des deux formes de manifestation. Et c'est là peut-être le cas le plus authentique de sémiotique syncrétique, c'est-à-dire on a donc deux sémiotiques fonctionnant en même temps et dont il s'agit d'éclaircir les rapports. Ceci d'ailleurs offre un cas intéressant, parce que cette idée du double discours, de deux discours, donc, se déroulant en parallèle, rejoint en fait ce que je disais au début sur les rapports à l'intérieur donc de l'hypothèse moniste, sur les rapports entre l'expression et le contenu. Si on se reporte à l'article de Grémas auquel j'ai fait référence, c'est un peu comme si le plan de l'expression jouissait d'une double appartenance ou d'une double attenance, comme s'il était une sorte d'interface. D'un côté, on peut, et d'une part, il est évidemment le plan de l'expression d'un contenu, qui peut être par exemple celui du texte, mais de l'autre, il peut s'autonomiser et constituer à lui seul un discours. Auquel cas, on est ramené au cas que j'évoquais, c'est-à-dire celui du double discours. Je vous renvoie, par commodité, à ce travail de Grémas. Cela dit, toutes ces distinctions, qui, j'espère, ont leur utilité, doivent conduire à la question des modes d'opération de ces phénomènes de syncrétisme. Et là, il convient de s'interroger sur les différents types de complémentarité qui peuvent s'établir entre, disons, le texte et l'illustration. J'énumérerai simplement quelques-unes des figures possibles, et il y a assurément tout un travail de précision à faire ici. S'agit-il de redondance, par exemple, lorsque on ne fait que joindre le geste à la parole? S'agit-il de relais ou de substitution, lorsqu'une des formes de manifestation vient, pour ainsi dire, à la place de l'autre, ou, et lorsqu'elle lui succède, sans pour autant rompre le suivi, la continuité du discours? S'agit-il de suppléance, auquel cas l'un des modes de manifestation serait là pour apporter ce que l'autre, au fond, ce qui fait défaut à l'autre, ce que l'autre, par exemple, ne saurait ni dire, ni montrer? S'agit-il, c'est encore un cas possible, de discordance et, par exemple, d'une manifestation par ce biais de phénomènes d'ironie, d'antiphrase, de contrepoint? Je passe, si vous voulez, à l'autre domaine que je me proposais de parcourir rapidement, non plus celui donc des syncrétismes, mais celui de la figurativité en général. J'aimerais dire quelques petites choses là-dessus. De même que tout à l'heure, il faut ici se reporter à la conception, aux conceptions sémiotiques de la signifiance, et notamment, à ce point précis, à cette idée que le parcours génératif conduit et aboutit à ce qu'on appelle la manifestation figurative, laquelle elle-même se traduit métaphoriquement, voici un surgissement de la métaphore dans le métalangage sémiotique, par un habillage, d'une part, et par un étoffement, d'autre part, ce que, globalement, Grémas appelle l'augmentation du sens. Une fois ce contexte théorique posé, on doit affronter la question que je formulerai familièrement, si vous voulez, en disant, bon, c'est pas le tout. Qu'est-ce que la représentation représente? Ici, je crois qu'il peut être intéressant de faire état de la distinction introduite par Joseph Courtès dans son ouvrage sur le conte populaire, poétique et mythologie, etc., publié chez au PUF. La distinction donc entre, d'une part, les traits figuratifs qui sont retenus, des traits figuratifs qui sont retenus pour leur fonctionnalité, pour leur pertinence, et d'autre part, les figures ou les configurations que ces mêmes traits informent et qu'en retour, ces figures ou ces configurations ont pour tâche de manifester. Donc d'un côté, les traits informent les figures ou les configurations, de l'autre et en retour, les configurations et les figures viennent manifester concrètement les traits. Ceci, à son tour, entraîne une réflexion, enfin, ou fait prendre conscience des deux modes, au fond, de saisie des figures, que l'on peut, comme ça, rapidement, appeler respectivement un mode de saisie molaire, où il s'agit d'une sorte d'appréhension globale de la figure, de la configuration, et une saisie moléculaire où il s'agit d'une composition de traits. Cette problématique est tout à fait pertinente, je crois, pour nous, parce que si on regarde les illustrations, par exemple un portrait, par exemple le portrait de Gervaise, la première illustration dans la série des illustrations dans l'édition de référence, eh bien... Bon, il y a cette saisie molaire, c'est-à-dire qu'on identifie globalement, et même on peut s'identifier globalement à la représentation, mais ne disposant pas, en tout cas pas encore, peut-être jamais, d'un code de l'expressivité suffisamment articulé, et même d'un code tout à fait mimétique, là, on est plutôt gêné lorsqu'on cherche à retenir des traits pertinents et encore plus lorsqu'on cherche à produire des règles de combinaison, c'est-à-dire une syntaxe qui, le tout, produirait des significations déterminées. À cette complexité, à cette complication, s'ajoute ce qu'on appelle aussi les hiérarchies figuratives. Ça veut dire qu'on assiste, du point de vue de la figurativité, de la mise en figure, à une spécification progressive. Par exemple, s'il s'agit au départ d'un trait sémantique très abstrait comme supérativité, on va avoir, par exemple, le recours à l'effet de sens topologique et déjà figuratif, hauteur, lequel lui-même va pouvoir se spécifier par la représentation, l'image, d'une montagne, d'un sommet, etc. Dire tout ceci, c'est admettre implicitement, et donc aussi explicitement en l'occurrence, qu'il y a comme un surplus ou même un supplément de figure par rapport à ces traits sélectionnés qu'il s'agit de manifester. Et ceci ouvre bien entendu la question du reste, cette question obsédante, enfin du reste. Une réponse fournie, un élément de réponse fournie par quelqu'un comme Joseph Courtès, toujours lui, c'est de dire que ces figures qui viennent manifester certains traits et dont la pertinence donc est variable, graduée, etc., ces figures peuvent être envisagées, doivent être envisagées dans leur singularité. Hein, parce qu'après tout, s'il s'agit de signifier la hauteur, pourquoi plus le sommet d'une colline que le sommet d'une montagne, ou, etc. Donc, il y a tout lieu de motiver le pourquoi de cette figure-ci plutôt que de cette figure-là. Et une des façons de le faire, où il y a différentes façons qui peuvent agir évidemment conjointement, ce serait de se référer à une sorte de logique métonymique, c'est-à-dire l'emprunt à l'entourage, enfin des représentations dont on a besoin pour la circonstance, une logique aussi du vraisemblable, et donc également une logique, une autre logique qu'on peut assimiler aux stratégies de véridiction. Le faire vrai, le faire croire, etc. Maintenant, si on examine les figures, de combien de temps est-ce que je dispose? J'irai sans doute pas jusqu'au bout.
Eh bien, je n'ose pas dire que votre temps de parole est écoulé.
Est déjà écoulé. Bon, alors, écoutez, je vais aller très très vite. J'ai parlé combien de temps là? Une demi-heure déjà?
Trois quarts d'heure.
Hein? Ah bon. Oui.
C'est simplement que nous souhaiterions garder un peu de...
Non, je comprends, donc j'accélère. Je disais tout à l'heure, qu'est-ce que la représentation représente? Ceci ne résout évidemment pas tout. Et vient aussi la question d'après, je dirais, qui serait quelque chose comme, qu'est-ce qu'elle vaut, la figure? Qu'est-ce qu'elle vaut, la représentation? Et cette question de la valeur introduit évidemment des ambiguïtés supplémentaires. Par exemple, que penser de l'opposition qu'on peut faire entre le représenté et le représentable? Ça a été esquissé précédemment, d'ailleurs. Il est très difficile de déterminer le statut modal du représentable. S'agit-il de quelque chose qui peut être représenté ou de quelque chose qui doit l'être? On voit tout de suite qu'on est là tributaire d'un jugement d'ensemble et, pour ainsi dire, extrinsèque. Si l'on oppose le représenté au non-représenté, on n'est pas sur un terrain tellement plus sûr. La pragmatique, par exemple, nous apprend des tas de choses intéressantes et tout à fait éloquentes sur l'omission, sur la non-mention de quelque chose qui n'est pas du tout corollaire, si vous voulez, d'une moindre importance, etc. Dernière chose qu'on peut dire, s'agissant de cette valeur, il s'agit de l'opération sémiotique dites, enfin de manifestations, comme je l'ai dit déjà, mais qui s'accompagnent de ce que Grémas appelle une mise à plat. La conséquence de ceci, c'est que des grandeurs, des types d'unités, des formes, qui sont en fait de statuts et de rangs extrêmement variables, extrêmement diversifiés, se trouvent mises, pour ainsi dire, sur un même plan. Et que donc, à l'inverse, on a besoin de tout un travail et donc d'instruments de reconnaissance, par exemple une théorie explicite, un ensemble de catégories, non seulement pour distinguer ces grandeurs, mais surtout, je dirais, pour les sérier, pour les hiérarchiser. Dernier mot, j'avais prévu en fin de compte de prendre quelques exemples, ça sera pour une autre fois, ou ailleurs. S'agissant du déploiement syntagmatique de la signification, et toujours dans la perspective à terme, bien sûr, d'un enregistrement, de la mise au point d'un protocole, comment traiter la question de la narrativité de et dans l'image, et comment enregistrer, si vous voulez, ce qu'on pourrait appeler le parcours des illustrations. Alors, il y a là des tas de choses relativement évidentes, surtout quand on dispose, si vous voulez, d'une sorte de modèle de narrativité. On peut mentionner, au passage, je ne ferai que cela, la fonction indicielle, par exemple, de certaines figures, le renvoi à plus tard et à un espace d'intégration différé, pour ainsi dire. Une ironie prospective, ici je pense à ce que j'appellerais le cas poisson dans l'Assommoir de Zola, hein. Il y a cette fabrication des petites boîtes de loi où, à côté de ce côté, de cet aspect un peu mesquin, quasi enfantin, apparaît une sorte de une espèce de maîtrise de compétence affichée. Le tout, bien sûr, étant démenti ironiquement par une autre apparition ultérieure de Poisson, où on le voit dans l'arrière-salle, toujours découpant ses petites boîtes, mais dans l'avant-salle et au premier plan, vous voyez la topologie axiologisée, je voulais dire sémantisée, le couple Virginie-Lantier, si vous voulez, et donc cette fois-ci, au lieu du sujet compétent, on a affaire, bien sûr, au sujet incompétent, aveugle, au mari trompé, etc. Bon. Ceci, bien entendu, toujours du point de vue du déploiement de la signification, oblige à tenir compte des couplages, des groupements, de manière à qui permettent de constituer des groupes de transformation. Et ainsi, la scène déjà mentionnée du lavoir, liée à, couplée avec la scène du lavage du sol par Gervaise, et si on regarde, si on confronte ces deux images, on voit, y compris dans la manifestation iconique, que ce sont bien deux illustrations en rapport de transformation, et ce qui compte, ce n'est pas seulement la transformation, bien entendu, mais l'orientation du procès. Du côté de l'activité de lecture, c'était mon dernier point, et plus généralement de l'esthétique de la réception, j'aimerais mentionner deux ou trois petites choses. D'abord, le fait que l'illustration, et je ne fais que le mentionner parce que ça a été dit précédemment, esquissé aussi, en d'autres termes, l'illustration participe à la manipulation cognitive entre l'énonciateur et l'énonciataire impliqué, si vous voulez, dans le procès de la lecture. Par exemple, mettre une illustration, je l'ai formulé avec la terminologie sémiotique, ça peut être faire pouvoir voir ou faire pouvoir savoir. Mais ça peut être aussi faire ne pas pouvoir ne pas voir. C'est ce que un de mes prédécesseurs, c'est plus lequel, pardon, disait en disant ça peut avoir un caractère limitatif, répressif, brimatoire. On m'oblige à voir Virginie ainsi alors que moi je la vois ou je préférerais la voir autrement. Il y a donc aussi de la passion là-dedans. Ce n'est pas seulement des manipulations cognitives, ce sont aussi des manipulations thymiques ou affectives, si vous voulez. Le fait que, par exemple, les images anticipent peut aller à l'encontre de la curiosité ou de l'intérêt, peut au contraire être vécu euphoriquement en disant « Ah ben c'est bien, comme ça je sais que Coupeau va se casser la figure, si vous voulez ». Et donc, il y va généralement et de la compétence et de la performance du sujet lisant. Toute dernière remarque, si vous permettez. Au fond, cet ensemble formé par, et c'est une espèce de généralisation conclusive, je dirais, cet ensemble formé par le texte et l'illustration, est aussi à envisager dans les termes de ce que j'appellerais une esthétique progressive, elle-même à mettre en relation avec ce qui a été dit précédemment, des morphologies en devenir, ou pour reprendre une expression de mon prédécesseur, en relation avec la structure évolutive du texte romanesque et accompagné de ses illustrations. Et c'est là que, si vous permettez, pour finir sur une image, sur une illustration, justement, j'aimerais emprunter à la musique une métaphore et dire que du point de vue de la réception, c'est un peu comme si on commençait par une sorte de cacophonie. Qu'est-ce que tout ça fait ensemble? Quel rapport entre tout ça? Une cacophonie qui progressivement se transformerait en la reconnaissance d'une polyphonie, qui est déjà un premier pas vers l'intégration. Et enfin, s'achèverait, mais s'achèverait-elle, si vous voulez, dans un effet de symphonie? Je dis s'achèverait-elle parce qu'il y a aussi, y compris dans le domaine de l'illustration, des esthétiques de la continuité, de la congruence, des esthétiques possibles de la rupture, de la syncope, de la brisure, qui introduisent une sorte de réitération, d'itérativité, dans cet ajustement continu, dans ces configurations changeantes, dans ces équilibres instables. Un autre équilibre instable, c'est évidemment celui de ce projet de travailler à un protocole d'enregistrement, mais je conclurai, sans coquetterie d'ailleurs, en disant que l'inachèvement, parfois, a du bon. Merci.
Merci beaucoup. Oui, si nous voulons garder quelques instants pour une discussion et des questions, le temps nous presse et je donne donc tout de suite la parole à Madame Janice Bess pour son exposé sur l'ironie du regard et l'ironie de l'image, nana, illustration, mise en scène, caricature.